Écoutez, bienvenue à nouveau et je me trouve plaisir de retrouver le groupe de Liedat, hein, parce que j'ai la chance cette année de faire deux séminaires, donc je suis tout à fait ravi de vous retrouver. On avait fait l'état et la décentralisation la dernière fois. Alors là, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de questions européennes. Et alors là, c'est toujours intéressant parce que pour nous, Français, c'est impressionnant de voir à quel point beaucoup de cadres, responsables, privés, publics, dans notre beau pays, ont encore énormément de mal à comprendre ce qui se passe à Bruxelles. C'est pas entièrement de notre faute collective. C'est aussi parce que nos élus ne nous aident pas énormément, assez souvent. C'est aussi parce que la presse a du mal. Et de façon générale aussi parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression, nous Français, qu'on était super bons à Bruxelles et qu'on avait tout compris. Ça s'appelle l'époque de l'or. Et encore aujourd'hui, on est d'ailleurs frappé quand on parle avec nos gros responsables, de l'impression que, en gros, l'Europe, ça marche à peu près encore à l'époque où était Jacques Delors. Et d'ailleurs, de temps en temps, régulièrement, Jacques Delors est interviewé pour de nombreuses questions européennes. Alors, et là, pour ceux qui travaillent un tout petit peu sur les questions européennes, ce n'est plus du tout le cas. Alors, c'est une première chose, que les choses soient bien claires entre nous. L'Union européenne, aujourd'hui, ne fonctionne plus comme à l'époque de Jacques Delors. Si au moins on a appris ça dans le séminaire, on n'en sera pas mieux pour rien. Pour vous expliquer comment fonctionne l'Union européenne, le pari qu'on a fait dans le séminaire, d'abord, le premier pari, c'est que pour comprendre l'Union européenne aujourd'hui, il faut comprendre les Anglais. Parce qu'une grande partie des transformations qui se sont passées depuis quelques années ont beaucoup à voir avec des modes de gouvernance, comme on dit chez nous, avec des manières de fonctionner qui sont en partie seulement, mais la Commission a été beaucoup réformée par Lord Kinnock, qui a été responsable de la réforme de la Commission et qui a été leader du pacte travailliste avant Tony Blair dans le passé, et une partie de ses influences viennent de ce côté-là. Pour comprendre, et donc, évidemment, j'ai demandé à mon collègue Mark Thatcher, dans le School of Economics, auquel je vais revenir, de venir nous aider à comprendre ce qui se passe. La deuxième raison de la présence de Mark, c'est que pour comprendre les questions européennes, c'est quand même des sujets assez austères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on regarde assez précisément comment on fait des politiques publiques, qu'est-ce que ça veut dire régulation, réglementation, qu'est-ce que fait l'Union européenne précisément. Et ce sont des sujets un petit peu difficiles. Par conséquent, il nous faut des gens qui savent se moquer de nous et qui aient un sens robuste de l'humour, rien de tel qu'un Britannique, pour pouvoir avoir ces qualités et pour pouvoir combiner ces choses avec nous. Alors, j'insiste sur ce point. Ce qu'on essaie de faire sur ce séminaire, c'est quelque chose d'un peu compliqué, comme toujours à l'INAT, on fait des paris avec des types d'intervenants, donc on va voir si ça marche. Et donc, on essaie sur ce séminaire de faire plusieurs choses. Je voudrais insister sur le fait que, historiquement, quand nous, Français, on a travaillé au niveau de l'Union européenne, permettez-moi de moquer un tout petit peu l'ERP une petite seconde, les auditeurs des dates sont habitués à savoir que le style de l'IEDAT, c'est à la fois des professionnels très sérieux et des universitaires qui jouent leur rôle critique tout en se moquant aussi d'eux-mêmes, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, hein, c'est une intervention, on joue ce double registre en permanence à l'IEDAT, c'est que la France, pendant très longtemps, était surtout présente à Bruxelles pour négocier les grands traités. Et grâce aux excellents services du ministère des Affaires étrangères, nous étions brillants pour négocier les grandes questions fondamentales à Bruxelles. En revanche, pendant toutes ces années 80 notamment, lorsqu'il fallait travailler précisément très en amont, 5 ans à l'avance, sur plein de petites politiques publiques tout à fait secondaires et inintéressantes, sur l'environnement, l'énergie, les fonds structurels, ce genre de choses, alors là, la capacité à travailler précisément sur ces dossiers était très faible. Donc pendant très longtemps, les Français ont eu l'impression de jouer un rôle très important à Bruxelles. Pendant ce temps-là, les Britanniques, qui eux regardaient ces grands traités de loi, étaient extrêmement présents pour négocier le détail de ces politiques publiques. Donc c'est assez récent, depuis une dizaine d'années, que l'ARP joue vraiment un rôle très important à tous les échelons des négociations de ce qui se passe à Bruxelles. Et c'est ça qu'on voudrait vous faire comprendre un peu aujourd'hui. Donc on a prévu 4 types de choses pendant ces séminaire. On va avoir 2 matinées un peu transversales, dans lequel on va passer en revue des enjeux un peu, vous voyez, un peu généraux. Donc ce matin, on va réfléchir sur l'élargissement, sur que fait l'Europe, et sur un peu les grandes dynamiques d'évolution de l'Union européenne, en rentrant en détail de comment ça fonctionne. Et puis demain matin, avec Marc, il va en dire un mot dans une seconde, on passera en revue précisément le mode d'action publique le plus important dans la question européenne, qui sont ces questions de réglementation et de régulation. On connaît bien maintenant en France, puisque le modèle d'agence de régulation est arrivé très largement chez nous également. Mais il faut vraiment rentrer dans le détail pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis par ailleurs, on prendra 2 types d'exemples. Cet après-midi, et puis en fin de matinée, on parlera sur les politiques territoriales, et on prendra les exemples de la politique de cohésion, fonds régionaux, fonds structurels, et la politique urbaine d'une part, et puis demain, sur les questions de l'énergie en particulier, pour regarder comment ça fonctionne précisément sur des politiques publiques précises. Donc, on va avoir, comme toujours, des types d'intervenants qu'on mélange à l'ELAT, quelques universitaires, pas trop, 3, des gens qui travaillent à la Commission, M. Lamontagne de l'ARP, et des gens qui travaillent pour des groupes privés, ou des juristes ou des lobbyistes, qui vont vous expliquer comment fonctionnent les politiques publiques au niveau européen. Donc ce qu'on essaie vraiment de faire comprendre aujourd'hui, c'est comment ça fonctionne Bruxelles aujourd'hui, là où on en est. Là où on en est, ce qui est pari, hein, le signal est très tendu en termes d'organisation, puisque les Irlandais ont finalement voté oui, les Renault y reviendra, les Tchèques vont finir par signer, et même les Anglais conservateurs auront beaucoup de mal à mettre en cause le traité de Lisbonne s'il est confirmé. Donc, on rentre vraiment dans une nouvelle phase de construction de l'Europe, on va avoir une nouvelle bonne organisation, et l'idée aussi pendant ces deux jours de séminaire, c'est de vous donner un peu quelques lignes sur ce qui risque de se passer dans l'organisation et la nouvelle organisation de l'Europe et la Commission européenne. Donc on est vraiment sur nos enjeux de l'IEDAC. Ce qui se passe sur les questions territoriales en France est très largement organisé, influencé, en interaction permanente avec ce qui se passe à Bruxelles. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sur tout un ensemble de politiques publiques si on ne comprend pas ce qui se passe européen. Il y a encore un certain nombre de gens qui pensent que l'Union européenne, c'est un truc un peu secondaire, surtout parce que nous avons, nous, Français, voté non à un certain référendum un jour. C'est une erreur d'optique massive. Et vous verrez que la logique du séminaire, c'est de vous montrer que même lorsqu'on vote non à certains traités, l'Europe continue à faire beaucoup de choses. Il faut qu'on comprenne ce qui s'y passe. Donc vraiment, l'enjeu du séminaire, c'est d'essayer de nous faire comprendre, même si c'est un peu austère et pas totalement drôle, vraiment le détail de comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui, ce qu'elle fait au sens large du terme, et ce qu'elle fait, comment elle fonctionne précisément dans certains domaines précis de politique publique. Donc je remercie Mark Thatcher, que vous verrez est parfaitement bilingue franco-britannique. Mark n'est pas le fils de Mme Thatcher, donc il ne sait le pauvre. Il y a déjà des personnes qui m'ont posé la question dans le train, donc je clarifie immédiatement ce point. Ça n'a strictement rien à voir. Je le laisse présenter plus précisément les parties du programme qu'il va présenter pour demain.
Merci beaucoup, Patrick. Ce qui est amusant, c'est que les Français voient l'Europe une genre de complot anglo-saxon, normalement la parole est pisée. Pour les Anglais, l'Europe, c'est les autres. C'est l'autre côté. On parle de l'Angleterre et de l'Europe. Et c'est surtout un complot des fonctionnaires à Bruxelles pour prendre le pouvoir. Donc c'est très intéressant de voir comment chaque pays voit dans l'Europe les choses qu'elle n'aime pas et les choses qu'elle craigne. Donc moi, je ne serai pas là comme représentant de sa majesté britannique. Je vais essayer d'aider à une analyse avec un peu plus de distance, surtout l'argumentation demain. Parce que l'Union européenne est avant tout une instance réglementaire. Elle dépense très très peu, contrairement aux journaux populaires, aux populistes britanniques. Il y a très peu de fonctionnaires, donc une administration qui est très très limitée, certainement par rapport aux administrations nationales. Par contre, elle a des pouvoirs importants de régulation, réglementation. Alors, je sais que ces deux termes sont utilisés en France. Ici, on ne va pas en faire une grande affaire, mais disons que l'Union européenne joue surtout à travers ses règles. Ces règles que les États membres doivent respecter juridiquement, et qui, juridiquement aussi, depuis 1962, priment sur les lois nationales. Une loi européenne a plus de force qu'une loi nationale. Donc demain, on va regarder les questions de réglementation et plus spécifiquement des sujets bien sensibles, surtout en France, la réglementation des réseaux. Donc on regarde les télécoms, on regarde l'électricité, on regarde un petit peu la finance, les finances. Ça touche là à des questions de conflit, des questions de pouvoir, des questions de services publics et question aussi de répartition de pouvoir entre les États membres et l'Union européenne, mais surtout une question de plus générale de modèle de marché de société. Ce qu'on va essayer de voir demain, je pense, c'est à quel point il y a des mythes sur l'Europe. Alors moi, je vais essayer de toucher sur des mythes qui sont des mythes normands en France. Je ne vais pas toucher les mythes anglais parce qu'ils sont tellement loin de la réalité, mais on va essayer de voir que l'idée d'une opposition frontale entre les États membres et les gouvernements et l'Union européenne est fausse. En fait, il y a beaucoup d'utilisation par les acteurs nationaux du niveau européen pour contourner les obstacles qu'ils retrouvent au niveau national et pour des objectifs bien plus larges qu'ils admettent publiquement. Tout ça sera pour demain.
Très bien. Donc pour commencer, je vous propose que M. Lamontagne nous explique en fait ce que fait l'ARP, parce que ce n'est pas forcément une institution très connue en France. Or, c'est le rôle central de négociation à Bruxelles.